Aujourd'hui, je vais me départir un peu de notre façon habituelle d'enseigner la parole, livre par livre, verset par verset. Nous venons de terminer la lettre de Paul à Tite, et c'est un peu un moment où je peux vous partager un peu la dimension de la vision que je veux voir arriver dans notre Église cette année. Elle l'est déjà, mais je crois que c'est important en début d'année. Et c'est vrai qu'on est déjà au mois de février, mais étant donné que j'ai été absent pendant 3 semaines, 2 semaines en Californie, 1 semaine en Allemagne, des conférences, j'ai hâte de me poser, et aussi j'en profite donc un peu tardivement. Je remercie encore James qui nous a enseigné dans 2 Corinthiens 4 sur l'idée de ne pas perdre courage, et aussi sur la perspective du trésor, avoir toujours à l'idée, à la pensée, l'idée que nous avons un trésor qui nous a été confié, le trésor de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et finalement, Pierre Ménégoli aussi, que je remercie beaucoup, nous a parlé du concept du corps de Christ, qui fait que chacun est indispensable. Et c'est très important de réaliser que le corps de Christ, l'Église dans son ensemble, dans le monde entier, mais aussi localement, dans chaque église locale, est un corps et qu'on a besoin les uns des autres. Et donc, je crois que c'est important d'avoir une bonne perspective sur les choses. Vous avez sans doute entendu parler de cette enquête, cet entretien qui était fait par des journalistes de France 2 au Moyen-Âge sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Et on demandait, le journaliste a interviewé les travailleurs qui étaient là, et il demandait à l'un, alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites ici? Et le gars disait, ah ben moi je turbine, moi je dois gagner de l'argent un peu pour faire vivre ma famille, mes enfants, ma femme, c'est dur, mais je travaille. Très bien, merci monsieur. Et vous ici, quelle est votre activité, qu'est-ce que vous faites? Ah ben moi je scie des pierres, j'ai une grande scie et j'ai des sacrés biceps, et à longueur de journée je coupe des blocs de marbre et de calcaire, et je travaille, je suis crevé, mais c'est ce que je fais, je scie des pierres. Et puis vous connaissez la réponse du troisième, qui était un peu plus spirituelle, il dit, eh ben moi, je construis une cathédrale à la gloire de Dieu. Et ça change tout, la perspective. Et je crois que dans la vie quotidienne, dans la vie du chrétien, on est confronté à des difficultés, des problèmes, des problèmes dans les relations, des problèmes dans les ressources, des problèmes dans notre santé, des problèmes dans la vie, dans la mort. Et on peut perdre courage si on n'a pas la perspective du fait qu'on est le corps de Christ et qu'on construit, qu'on est en train de... que Jésus construit son Église pour que l'Évangile, ce trésor de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, soit répandu. Et quand on a la bonne perspective, les petites difficultés, elles sont insignifiantes. Et pendant ces quelques semaines où j'ai été à l'écart, on a était à une conférence auquel nous étions invités en Californie. C'est une conférence missionnaire, et le thème c'était d'être des lumières dans les ténèbres. Ça vient du célèbre passage d'Ésaïe, qui se trouve dans Ésaïe 9, 1. On va citer plusieurs passages aujourd'hui. Encore une fois, on ne va pas faire une étude suivie. Ésaïe 9, 1, c'est page 677 dans la Bible à la colombe. Et il est dit, le peuple qui marche dans les ténèbres, il s'agit donc des païens, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et ça, c'est bien sûr un passage messianique qui annonce la venue de Jésus. C'est souvent un texte qu'on réserve à Noël quand il fait... Les jours sont courts, on est dans la nuit, et on aime bien, il y a des cartes postales de Noël qui citent ce verset. Mais il faut se méfier des versets de la parole qu'on réserve à certaines périodes de l'année. Parce qu'en fait, la Bible n'est pas un calendrier liturgique. On vit souvent avec un calendrier liturgique dans le sens où à Pâques, on célèbre la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À Noël, on célèbre sa naissance, son incarnation parmi les hommes. Mais être lumière, cette notion de lumière, c'est un thème récurrent dans la parole. Généralement, on n'a pas de problème à croire et à admettre, et même faire un élément de notre doctrine. Dans Jean 8, 12, Jésus a dit « Je suis la lumière, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On sait que un peu plus loin, Jésus a même dit Il nous faut, Jean 9, 4, il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, on l'admet bien volontiers. On admet bien volontiers que nous vivons dans un monde de ténèbres. Mais une chose qui est plus difficile à embrasser, à approprier, c'est les paroles de Jésus dans le fameux sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 14, dans laquelle il dit à ses disciples, et à travers eux et à travers les âges, les années, il nous dit à nous, chrétiens à Nice en 2013, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et vous glorifient. Oups, pardonnez-moi, sacrilège, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. On a du mal à admettre que nous sommes la lumière du monde. Et pourtant, c'est pas un encouragement à l'être. Jésus l'annonce ici comme un fait. La question n'est donc pas de savoir si nous sommes la lumière du monde. La question, c'est savoir combien nous brillons. Et on a du mal à penser que nous sommes la lumière du monde parce que bien souvent, on réalise que nous brillons faiblement. Nous brillons par intermittence. C'est pas ce que Jésus veut. Il veut que nous fassions que notre lumière brille devant les hommes. Une chose que nous voulons tous, je crois, et je vais à partir de cette idée de briller pour le Seigneur dans les ténèbres, on pourrait faire toute une étude là-dessus, mais simplement une notion, parce que c'est aussi la volonté de Dieu. On a, la semaine dernière, Sean Stone, ce pasteur américain qui pense venir donc s'installer à Nice et aider Tonio avec un centre de formation pour l'implantation d'église. Il a expliqué comment il avait été dirigé par le Seigneur, comment on trouve la volonté du Seigneur. On a des choses qu'il nous dit dans sa parole, d'autres personnes confirment ce qu'on a dans le cœur, on peut partager et avoir la confirmation par d'autres. C'est une chose est certaine, c'est qu'il faut approcher recherche de la volonté de Dieu avec confiance que Dieu ne cherche pas à nous la cacher. C'est pas un jeu de pistes, mais c'est le résultat d'une proximité de Dieu, de Jésus, de sa parole, qui fait qu'on est en phase. Souvent donc on cherche, est-ce que je dois faire telle ou telle chose, est-ce que je dois épouser cette personne, est-ce que je dois me lancer dans ces études, est-ce que je dois accepter ce travail ici. Aujourd'hui, quand on nous propose un travail, en général, on ne fait plus la fine bouche. Mais on a toujours ce désir de trouver la volonté de Dieu dans nos circonstances particulières. C'est pas une mauvaise chose et Dieu peut nous diriger. Mais je crois qu'il est bon de faire déjà la volonté de Dieu telle qu'il nous l'a révélée clairement. Et il y a plusieurs passages dans la Bible où il nous est dit, voici la volonté de Dieu pour vous. Et notamment dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16, il nous est dit de soyez toujours joyeux. On se dit, mais c'est bien beau ça, mais quand ça va pas, c'est difficile. On n'est pas des masochistes, on va pas faire prétendre. Mais il nous est dit ici, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. On dit, mais attends, ça c'est un peu fou, hein. J'ai un travail à faire, je conduis un bus sur l'autoroute, je ne vais pas fermer les yeux pour prier. Mais prier sans cesse, c'est la même chose que lorsqu'on a, en ce moment, on est beaucoup à avoir cette grippe ou ces problèmes respiratoires où on tousse, et on tousse sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'on tousse 24 heures sur 24, mais on a toujours cette tendance à venir à tousser, ce qui peut déranger nos voisins, nos époux, nos épouses. Mais c'est là sans cesse. Et de la même façon, prier sans cesse, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien d'autre, mais qu'on a toujours cette pensée à l'esprit de se tourner vers Dieu, de lui remettre nos joies, de lui remettre nos peines, de lui remettre nos besoins, de lui remettre les besoins des autres. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Et puis, il dit au verset 18, « En toutes circonstances, rendez grâce, dites merci, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que Dieu veut qu'on dise merci. Lorsque les enfants sont petits, détestent quand on leur dit merci à la dame. La dame qui vient de leur faire un joli cadeau, la grand-mère qui vient, dit merci à mémé. Et Dieu, il veut qu'on cultive cette attitude de grâce. Et quand on connaît, quand on réalise, quand on approfondit, quand on saisit un petit peu, parce qu'il est impossible à saisir entièrement, quand on saisit un peu de l'amour de Dieu que Dieu a pour nous, on ne peut pas ne pas être reconnaissant. Et ce qui serait bien, c'est qu'on cultive sciemment, consciemment, avec intentionnellement cette grande attitude de gratitude. Et j'ai bien aimé le fait que Hervé, dans sa situation, même si c'est douloureux, il a pensé à venir nous remercier des marques d'attention qu'on a eues dans son deuil. Cette attitude de gratitude. Alors je vous ai parlé de briller comme des lumières, et maintenant je vous dis de cultiver une attitude de gratitude. En fait, il y a une très forte corrélation entre ces deux désirs, et ça on le trouve, on va regarder ensemble, ce sera le texte principal, Philippiens 2, versets 12 à 16. C'est ce grand passage, le chapitre 2 de Philippiens, où Paul explique comment Jésus s'est humilié, comment il s'est dévêtu de sa gloire céleste, divine, comment il s'est humilié jusqu'à la mort par amour pour nous. Et il est dit à la fin de cette descente, en quelque sorte, jusqu'à la mort la plus avilissante qui puisse avoir été, qui puisse être. Il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Paul vient de parler d'une chose fantastique, d'une chose sublime, l'humiliation de Dieu qui précède son élévation et qui précède la gloire de Dieu qui va remplir les hommes lorsqu'ils vont enfin comprendre cela. Et puis, il nous dit, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmurer, sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. On va s'arrêter là. Et donc ce passage très pratique, après cette grande vérité doctrinale, cette grande vérité spirituelle de l'amour de Dieu manifesté par une humiliation qui l'a conduit jusqu'à la mort pour nos péchés, qui précède son élévation et sa reconnaissance comme étant le plus beau nom de tous les noms et qui contribue à la gloire du Père. Paul écrivait cette lettre dans à peu près vers l'an 62 de notre ère, après sa naissance. Et le thème de la lettre, c'est la joie. Une joie qui est incompréhensible à vue humaine, surtout quand on se rappelle qu'il était en prison, qu'il était... L'empereur à l'époque, c'était l'empereur Néron, qui allait encore régner 4 ou 5 ans après cette lettre. Et pourtant, Paul a trouvé le secret du contentement, le secret de la joie, et il veut nous le partager. Il nous dit donc... de travailler à notre salut, pas de travailler pour mériter notre salut, mais étant donné que nous sommes sauvés, que nous avons cette merveilleuse relation avec Dieu, par son Fils, nous voulons faire des bonnes œuvres pour le glorifier. Ça rappelle l'épître de Jacques qui dit que si nous avons vraiment la foi, elle va se manifester par des bonnes œuvres. Et donc, il nous invite à le faire avec crainte et tremblement, dans le respect de Dieu, avec sérieux, avec zèle. Et il ajoute, vous le faites quand je suis pas là, vous le faites quand je suis là, c'est encore mieux que vous le faites quand je suis pas là. Parce que ça me donne la paix, je sais que vous êtes en train de mettre en œuvre votre salut. On pourrait s'enorgueillir de faire des bonnes œuvres pour le Seigneur, mais il nous rappelle, verset 13, « C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Autrement dit, on ne peut pas se glorifier de ce qu'on fait pour Dieu, c'est Dieu qui nous l'inspire et c'est Dieu qui nous donne la force de le faire. Et puis ce verset clé pour moi, « Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Il nous dit « Faites tout sans murmure ni discussion. Arrêtez de rouspéter. Soyez dans la gratitude, pas dans l'ingratitude. Nous avons cette tendance naturelle à rouspéter, à être des grincheux. Je pense que les Français sont les champions du monde, du murmure, de la rouspétance, c'est un vieux mot. En grec, le mot qui est utilisé, c'est le mot gougousmaï. Et le mot rouspéter, c'est pas un mot agréable à entendre. Le mot gougousmaï, c'est pas un mot agréable à entendre. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des onomatopées. Ça reproduit un peu le bruit qu'on entend lorsque les gens rouspètent. Ah, moi, je rouspète, j'en ai marre, c'est pas possible. Nanana, nanana. En France, on essaye de faire des réformes. Et ça bloque. Il y a des grèves, il y a des manifestations. C'est intéressant qu'en Suisse, on fait des lois avec des référendums. Chacun est dans le secret de l'urne, de pas de l'urinoir, de l'isoloir. Pardon. Et il n'y a pas de division, il n'y a pas de déchirements sociaux. En ce moment, on est en train d'assister au déchirement de notre société avec ce projet de loi du mariage homosexuel, de l'adoption de parents homosexuels, de la gestation pour avoir des enfants, etc. La gestation assistée par des moyens médicaux ou même par des mères porteuses. Et la société se réjouit de voir ces déchirements. Hier, on s'est retrouvé à quelques-uns à une manifestation pour tous. Et il y a beaucoup de gens qui étaient là qui me disaient « c'est la première fois que je viens manifester ». Et on se demande pourquoi on ne peut pas faire ça, faire un débat, même si les gens s'emportent avec leurs convictions. Mais après, on va voter. Et puis, le résultat est sans appel, quelque part, si on accepte la démocratie. Mais là, on se complaît à des déchirements et Dieu nous dit « arrêtez de râler ». Pourquoi ? Parce que on va ainsi être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, et on va briller comme des flambeaux dans le monde. Un des secrets pour les chrétiens, pour être des lumières dans le monde, c'est de briller par une attitude de gratitude. Et vous avez tous été auprès de gens qui râlent. Je suis peut-être un des pires et je t'en demande pardon, mais j'aime bien rouspéter, je suis bien français en ça. Mais ça sert à rien, ça c'est pas agréable à entendre. Il y a d'autres façons d'agir si on n'est pas content de ce qui se passe. Et si vous demandez à Nancy, Elle vous dira, elle vous confirmera que je suis quelqu'un qui rouspète. Je suis quelqu'un qui se plaint. Et la chose terrible, lorsqu'on se plaint, c'est pas seulement qu'on se plaint des circonstances ou de notre situation. En fait, on se plaint de Dieu. On lui dit en essence, comment se fait-il que j'ai tous ces problèmes? Tu dis que tu m'aimes, mais j'y crois pas. Parce qu'il y a telle situation politique, il y a telle situation économique, j'ai des problèmes ici, j'ai des problèmes là. Et en fait, on lui fait des reproches. Et c'est tellement rare, des gens qui ne rouspètent pas. Et je réalise que ces paroles vont venir me hanter toute cette année. On va me dire, chut, stop, arrête-toi, oups. C'est tellement rare que ça nous fait briller comme des flambeaux dans le monde, dans l'obscurité. On dit qu'on peut voir le rougeoiement d'une cigarette de quelqu'un qui fume jusqu'à 2 ou 3 kilomètres de distance dans l'obscurité. Ça, c'est une cigarette. Un flambeau qui brille, ça fait une grande différence dans l'obscurité. Et donc, Dieu nous invite à être ces lumières, ces flambeaux qui brillent. La lumière, encore une fois, c'est quelque chose de mystérieux. Même au niveau de la physique, on arrive à décrire un peu comment la lumière se comporte, parce que par moments, la lumière se comporte comme une onde, mais il y a aussi ce qu'on appelle des photons, comme des particules. Donc il y a cette dualité qui fait qu'il y a une onde et une onde et des particules. Donc on a trouvé Louis de Broglie, un Français, a trouvé cette théorie de la mécanique ondulatoire. Donc il y a des éléments qui se déplacent, mais en fait c'est on n'arrive pas à comprendre vraiment ce que c'est que la lumière. On arrive à l'utiliser, on arrive à faire des applications scientifiques, mais c'est qu'une théorie, cette théorie de la mécanique ondulatoire. La lumière, elle est révélée dans la Bible. La lumière, c'est un signe de Dieu, c'est une marque de Dieu. Dieu est lumière, Jésus est la lumière. Et si Dieu est en nous, alors par la force des choses, nous brillons. Nous sommes des lumières, nous aussi. La lumière, c'est plein de bénéfices pour l'humanité. La lumière est utilisée pour révéler les choses. À la conférence des missionnaires, j'ai rencontré un missionnaire en Chine, et un jeune avait eu l'idée de faire un livre pour enfants avec des images et une petite histoire. Mais en fait, si on utilisait une lampe à ultraviolet et qu'on éclairait les pages, derrière ces petites histoires, on voyait le texte de l'évangile de Jean. Donc dans les pays où on peut pas avoir la parole de Dieu, où c'est interdit, la Corée du Nord, on peut par contre envoyer ces petits livres. Il suffit d'une lumière pour révéler la vérité de l'évangile. La lumière, ça rend les choses évidentes. Quand on est dans le noir, on se cogne, on voit rien. Même au niveau d'une bonne idée, dans les bandes dessinées, il y a toujours le gars qui a une bonne idée, il y a une petite ampoule qui apparaît, qui s'éclaire. Et quand j'étais aux États-Unis, là, pendant notre voyage, à un moment donné, je me suis levé, je suis allé dans la salle de bain, et en fait, je me suis aperçu que, ou en fait, je partais pour une réunion très tôt le matin et j'avais laissé la lumière éteinte dans la chambre. Et en sortant, j'ai fait quelques pas, et c'est au bout de 50 mètres, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de bizarre. Et j'ai réalisé que je n'avais pas pris mes lunettes. Dans le noir, je n'avais pas remarqué que je n'avais pas mes lunettes. Mais la lumière révèle les choses. La lumière est utilisée pour guider les gens. Dans les cinémas, il y a souvent des petites lignes de lumière. Si jamais il y avait un incendie, on pourrait voir la fumée monte en haut, mais au sol, ou dans un avion, il y a des lignes de lumière, des bandes de petites lampes qui vous guident vers la sortie, vers la sécurité. La lumière, c'est utilisé aussi comme un avertissement. Sur votre tableau de bord, le tableau de bord de votre voiture, vous avez différentes petites lampes qui vous indiquent que vous êtes à court d'essence, ou que votre moteur a trop chauffé, ou que les airbags sont pas. Il y a un problème avec le système de sécurité. Et donc ça nous conduit à prendre des actions, ou du moins ça nous avertit qu'il y a un problème. Et si on est sage, on va utiliser ces avertissements pour résoudre le problème. Si on ignore ces avertissements, on va au-delà de problèmes plus sérieux. La première voiture que j'ai eue quand j'étais étudiant, c'était une petite Simca 1000 d'occasion. C'était des petites voitures qui ressemblaient à des savonnettes. Elles avaient une forme de boîte à choses, de boîte d'allumettes. Et j'étais tout heureux d'avoir cette petite voiture qui me donnait une dimension pour voyager, pour me déplacer. Et un jour, j'avais vu la lumière rouge du voyant d'huile, mais je m'étais dit, oh, je ne vais pas m'arrêter maintenant, je vais continuer jusqu'à ce que la voiture s'immobilise, que, comme on dit, j'ai coulé une bielle, c'est-à-dire que l'absence d'huile a fait que le moteur, les pistons ont fondu dans les cylindres, et ça m'a coûté plus cher que l'achat de la voiture pour réparer. J'ai travaillé avec le mécanicien qui a bien voulu de ma main d'œuvre, mais j'ai ignoré un avertissement. La lumière rend les choses plus sûres. Dans les rues, sombre, il y a plus de crimes que dans les rues bien éclairées. Et une façon de diminuer le crime dans une ville, c'est de s'assurer que la nuit, les rues sont bien éclairées. Et puis, la lumière, c'est aussi utilisée pour égayer les choses, pour donner une ambiance de fête, de joie. Les lumières de Noël sont des lumières qui sont supposé donner de la joie, amener un. Et c'est vrai que ça égaye les choses, ça donne un air de fête. Je vais pas vous demander si vous avez retiré vos lampes de Noël, vos arbres de Noël et les lampes qui les décorent. Vous remarquerez qu'on n'a pas complètement fini le travail. Il y a encore nos lampes, elles sont pas allumées, heureusement, mais ça peut briller tout le temps, mais une chose est sûre, c'est que la lumière, elle ne se plaint pas. En principe, dans la réalité des choses. Je dis en principe dans la réalité des choses parce qu'en fait, j'ai un très bon ami dont le fils va passer nous voir, vous le rencontrerez d'ici quelques semaines. Quelqu'un de très créatif qui avait écrit une petite pièce de Noël pour être jouée à l'école, par l'école du dimanche ou par des adultes. On avait même fait ça dans des centres commerciaux des étudiants de la parole, de l'école de disciples. Et ça s'appelait la rébellion des lumières de Noël. Et l'histoire, c'est que dans une maison, il y avait un bel arbre de Noël avec de belles lampes de Noël, de belles guirlandes de Noël, de lumière. Mais les petites lampes étaient comme les hommes, elles étaient égoïstes. Elles étaient jalouses et elles se plaignaient. Elles rouspétaient. Il y en a une qui disait « c'est pas juste ». Elle est devant, tout le monde la voit bien, moi je suis derrière, il faut faire le tour et on peut même pas faire le tour parce que l'arbre est trop près du mur. Moi je brille pour rien et elle, c'est pas juste. Puis d'autres qui disaient, toi tu as une jolie couleur, ce vert foncé, qu'est-ce qu'il est beau, mais moi je suis un bleu pâle, terne, c'est pas juste. Finalement tout le monde était mécontent de leur sort, toutes ces petites lumières. Elle décide de faire grève. Ça devait être un arbre de Noël français. Elle décide de faire grève et ça fait le désespoir de la petite fille de la maison qui se retrouve devant ce sapin de Noël qui ne brille pas. Et donc elle est absolument dans la peine. Et une de ces petites lampes a un petit cœur tendre, et ça, de voir la peine de cette petite fille devant cet arbre qui ne brille plus, ça la remet en question. Elle dit « Oh, c'est un peu bête, regardez la tristesse de la petite fille. On devrait reprendre le travail, vous croyez pas ?» Elle dit ça timidement. Il y en a qui se plaignaient aussi de leurs horaires de travail, parce que souvent on les laissait briller jour et nuit, et ils disaient, mais attends, il y a la loi des 35 heures, c'est un scandale. Mais finalement, elles se remettent d'accord pour se remettre au travail, pour le bénéfice de tous. Et donc ça, c'est une gentille petite histoire qui, j'aimerais bien retrouver le texte et les chants qu'il avait composés. Je les ai égarés. Je lui ai demandé s'il les avait, il les a égarés, il les a pas retrouvés. Mais ça ferait une merveilleuse petite pièce de théâtre pour Noël, pour l'école du dimanche. Mais l'idée, c'est que le travail de lumière, c'est de briller, c'est pas de rouspéter. Et en tant que chrétien, notre rôle cette année, j'espère qu'on va briller davantage dans le quartier, entre nous encourager les uns les autres. Dieu commence par mettre sa lumière dans nos cœurs. C'est la façon dont nous venons à lui. C'est dans ce passage de 2 Corinthiens 4 sur lequel James a enseigné au début de l'année. 2 Corinthiens 4, 6, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Dieu nous fait briller sa lumière dans nos cœurs et nous demande ensuite de laisser briller la lumière qui est en nous, de pas nous cacher. Et là, c'est très important. On peut avoir des ampoules dans une boîte, mais s'il y a pas de, les ampoules sont pas installées dans la maison, il va pas y avoir de lumière dans la maison. Et nous, en tant que chrétiens, c'est bien de nous retrouver, mais on doit se retrouver pour se recharger et pour aller briller au dehors. Chacun de nous, nous pouvons briller. Pour revenir à ces manifestations vis-à-vis du mariage homosexuel, nous pouvons briller sans rouspéter. Jésus, Paul aurait dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons avoir de la compassion, de l'amour pour ces gens. Ils ne sont pas plus méchants que nous ou moins méchants que nous. Ils n'ont pas eu encore la lumière de l'Évangile qui a brillé dans leur vie. Et pour eux, ils voient deux personnes ensemble, il n'y a pas de dimension spirituelle, il n'y a pas de vérité biblique, il n'y a pas de parole de Dieu. Ils croient se réclamer du sentiment d'égalité, et ils le font sincèrement pour la plupart. Et nous devons les aimer, et nous devons leur dire, nous devons prier pour eux, nous devons leur dire que nous ne sommes pas d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se déchirer, qu'on se détruit les uns les autres. Alors, cette idée de briller par la gratitude, c'est très fort. Et ça commence par chacun de nous de faire un peu le bilan et de voir tous les bienfaits, comme le dit le cantique, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras combien ils sont nombreux. On peut toujours voir ce qui ne va pas dans nos vies, tout ce qui nous manque, entre guillemets, voir le verre à moitié vide au lieu de considérer qu'il est à moitié plein. Donc devant la même situation, on peut avoir une attitude de paix, de joie qui rayonne et qui attire les autres. Parce qu'encore une fois, vivre avec des gens qui rouspètent sans arrêt, c'est pas drôle. C'est pas génial. Ça déprime, on a tendance à le faire, ça entretient encore une fois un sentiment de combat, qui lasse, qui fatigue. Et la question c'est, pourquoi est-ce que c'est si difficile de cultiver une attitude de gratitude ? C'est pas nécessairement quelque chose qui va nous rendre plein de reconnaissance, mais je voudrais souligner pour terminer quelques obstacles à la gratitude. Encore une fois, je veux remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Chef duquel ma chère épouse Nancy, nous célébrons aujourd'hui 35 ans de mariage. Par la grâce de Dieu. Amen. Et pour ma famille, pour le fait que Dieu m'a permis d'œuvrer pour lui, pour chacun et chacune de vous, pour ses bons plans, pour sa parole, pour Jésus, pour son salut, pour toutes ces choses. Nous avons des tas de raisons d'être pleins de gratitude. Et c'est sûr, il y a des choses difficiles, mais encore une fois, c'est une question de perspective. Est-ce qu'on coupe des bouts de plâtre à longueur de journée ou est-ce qu'on construit quelque chose avec notre vie grâce au Seigneur? Vous vous souvenez que Jésus a dit que ce soit seulement que les hommes puissent voir la gloire de Dieu. Ça, c'est essentiel. Tout ce que nous faisons, quand nous remercions Dieu, nous devons le faire. Notre gratitude, notre lumière qui brille, elle doit briller pour la gloire de Dieu. Et quelques-uns de ces obstacles, le premier c'est sans doute l'incrédulité. L'incrédulité, ça veut dire qu'on a des doutes concernant Dieu, on a des doutes concernant son amour véritable, sa puissance. On n'a pas une attitude de reconnaissance parce qu'on pense que on ne croit pas que Dieu peut régler nos problèmes. C'est l'exemple fameux des 10 espions, des 12 espions envoyés en terre promise. 10 d'entre eux se sont arrêtés aux problèmes, aux difficultés, et ont donné le message « Il est impossible pour nous d'entrer dans cette terre promise, les adversaires sont trop grands, les murailles sont trop hautes, nous on est comme des petites sauterelles vis-à-vis de ces géants. » Ils n'avaient pas confiance en Dieu, ils n'avaient pas la foi qu'avaient Caleb et Josué qui disaient « Certes, il y a des difficultés, mais avec Dieu, il n'y a pas de problème. » Quelle que soit votre situation cette année, avec Dieu, il n'y a pas de problème. Faites confiance à Dieu. Que ce soit dans votre santé, dans votre travail, dans votre situation économique, dans vos relations, faites confiance à Dieu. Prions. Ça, c'est aussi, chaque année, j'aimerais que de plus en plus notre église soit une maison de prière. Trop souvent, les chrétiens vivent comme des chrétiens athées. Ils ne croient pas que Dieu peut agir. Ils ne prient pas, ils ne demandent pas à Dieu. Dieu nous a dit de prier sans cesse. Et si on manque de foi, on peut prier « Dieu augmente ma foi ». Dieu veut faire grandir votre foi. Sans la foi, il n'est pas possible de lui plaire, nous dit la lettre aux Hébreux. Faire confiance à Dieu. Il y a ce passage qui dit que Dieu ne fait rien, ne souffre qu'aucune chose ne soit faite, que l'on ne ferait nous-mêmes si, comme lui, on pouvait voir les choses à l'avance. On est des fois dans des situations, on dit, mais c'est pas possible, Dieu s'est trompé, il a fait des erreurs. Dieu s'est pas trompé. Mais Dieu connaît toutes choses, il voit le début et la fin. Et si vous voyez les mêmes choses, vous feriez exactement la même chose avec du bon sens éclairé. Premier obstacle à la gratitude, c'est l'incrédulité. Le deuxième, c'est l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, ça veut dire que ma volonté est plus forte que celle de Dieu. Jésus a été le meilleur exemple quand dans le jardin de Gethsémané, il disait « Père, si c'est ta volonté que cette coupe passe mes lèvres, cependant pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Luc 22, 42. Si on insiste pour faire notre propre volonté, Dieu va nous laisser faire. Dieu ne nous force pas. Mais si on cultive une attitude d'égoïsme, si on est toujours à penser à soi d'abord, et c'est bien naturel, encore une fois, je suis égoïste moi-même, vous le savez, surtout ceux qui me connaissent bien. Mais si on est égoïste, on va pas remercier celui qui nous bénit. On va dire « je veux plus, comment ça se fait ?» Il a plus que moi. Un troisième obstacle, c'est souvent l'attraction des choses du monde. Ce que les vieilles Bibles appellent la mondanité. Être attiré par les choses du monde. C'est donner une grande place au plaisir, aux ressources du monde pour trouver la satisfaction. C'est pas Dieu qui vous satisfait, c'est pas les choses spirituelles, mais ce sont les choses matérielles, c'est la popularité du monde. Et on ne peut pas, là aussi, quand on est attiré par le monde, dire merci à Dieu. On est malheureux, on pense que les choses vont nous satisfaire. Et puis quand on a ce nouvel ordinateur, on voit qu'on a les problèmes n'ont pas disparu. On a cette nouvelle voiture, cette nouvelle maison, mais Les problèmes dans le couple n'ont pas disparu. Bientôt, on se retrouve avec une belle maison vide parce qu'il y a eu un divorce. Toutes ces choses, c'est parce qu'on attache plus d'importance aux choses du monde qu'aux choses de Dieu. Une autre attitude qui tue la gratitude, c'est l'attitude de condamnation, la tendance à critiquer les autres. En anglais, on parle de « critical spirit ». C'est une bonne chose que d'avoir un esprit critique dans le sens où on utilise notre logique pour juger des situations, on ne répond pas par émotion. Mais entre l'esprit critique et l'esprit de critiquer, il y a une grande différence. L'esprit de critiquer, c'est qu'on, devant toute situation, on trouve des problèmes, des responsabilités de l'autre, et ça gâche la vie. Ça gâche la vie. Et là aussi, je demande pardon à Dieu parce que souvent j'ai une tendance à être perfectionniste. Et quelqu'un va, même dans l'Église, et je le confesse, et je vous en demande pardon si vous avez été victime de ça, mais vous pouvez faire quelque chose avec énergie, avec bonne volonté pour plaire à Dieu et faire quelque chose de bien. Et je vais remarquer quelque chose qui n'est pas comme je l'aurais fait. Et ça tue l'atmosphère. Ça fait du mal aux autres, ça me fait du mal à moi, parce que bien souvent, après je dois demander pardon, je réalise que j'étais trop loin. Mais cette tendance à condamner, cette tendance nous tourne, fait de nous des gens avec qui personne ne veut être. Non seulement parmi les chrétiens, mais aussi les gens du monde. Alors qu'au contraire, si on est prêt à appliquer 1 Corinthiens 13, qui nous dit que l'amour, il accepte tout, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Si on a cette attitude, les gens vont venir à vous. Parce que c'est, encore une fois, c'est tellement rare. C'est pas quelque chose qu'on enseigne dans les écoles. Un cinquième point, ce sera l'impatience. Je le veux, mais je le veux tout de suite. Et ça, c'est aussi dans notre monde, le succès des fast-foods, le succès des appareils à tout faire, la machine Nespresso. Celle-là est plus rapide, 30 secondes, tu as ton expresso. Waouh ! On devient impatient avec Dieu dans notre vie. Je vais avoir 25 ans et je suis toujours pas marié. Mon horloge biologique fait tic-tac. Je vais pas pouvoir avoir 12 enfants si je commence pas tout de suite. Seigneur, amène-moi mon époux dans l'église, sinon je vais en boîte de nuit. Si on a cette impatience, si on est toujours à vouloir tout de suite, on oublie de dire merci. On oublie de reconnaître l'amour de Dieu. L'opposé de toutes ces choses, de ces cinq points, ça va donner confiance en Dieu. Une chose qui est vraiment attractif, c'est quelqu'un de patient, de gentil, de positif, par la force de Dieu. Une chose qui peut tuer l'attitude de gratitude, c'est aussi une attitude de tiédeur, un manque de passion. On n'aime pas fréquenter des gens ennuyeux. On aime les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, par ce qu'ils croient. Jésus lui-même disait à l'église d'Éphèse, Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Waouh, tous ces compliments. Mais, un mais terrible, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Jésus dit, je préfère que vous soyez froid que tiède, froid ou chaud que tiède. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un est froid, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu, et on peut annoncer Dieu, ça va faire une différence dans leur vie. Quand on est chaud, bouillant pour le Seigneur, c'est formidable, c'est merveilleux. Mais quand on est tiède, on peut vous partager l'évangile, et ça c'est le danger qui guette beaucoup de chrétiens, c'est qu'avec la familiarité, il y a la tiédeur qui s'installe. Et ce qui devrait nous exciter, nous remplir de joie, nous motiver, nous remplir de zèle, de passion, « Oh oui, je sais, Seigneur est mort pour mes péchés, alléluia !» Et ça, ça tue la gratitude. On le sait tellement qu'on a oublié ce que ça a coûté à Dieu. Et puis, une dernière attitude, c'est bien sûr une attitude opposée à la gratitude, c'est une attitude de rébellion. Pleine et pure, simplement être en colère contre Dieu et ne vouloir faire que notre volonté. C'est du péché, en fait. Parce que Dieu nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toute chose, remerciez-le. Et puis il nous dit plus loin, et si vous faites ça, alors vous allez briller. Ça va attirer les hommes à lui, pas à nous, mais à lui. Voilà, donc ça c'est un thème peut-être pour l'année, c'est pas le seul. On doit prier, on doit agir, mais on doit avoir cette bonne priorité. Que Dieu nous aime, qu'il nous l'a montré par le plus grand des sacrifices, qu'on peut être toujours joyeux, non pas parce que nos circonstances sont toujours 100% heureuses et formidables, mais parce qu'on a cette assurance qu'il nous aime, qu'il va prendre soin de nous, qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut placer notre foi en lui sans aucune arrière-pensée, que lorsqu'il y a des difficultés, on sait que, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par lui. Romains 8, 32. Ça, c'est ce qu'un prédicateur appelait un oreiller bien doux sur lequel nous pouvons poser notre tête et dormir et nous reposer. Tout ce qui se passe dans nos vies, Dieu le permet, Dieu le laisse faire ou le fait, le cause pour la bonne cause, par amour pour chacun et chacune de nous. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ta volonté clairement révélée, Seigneur. Aide-nous à nous engager, avec ton aide, Seigneur, à être tes disciples qui faisons ta parole, Seigneur, qui croyons et obéissons, comme nous l'avons vu vendredi soir dans Jean 5, Seigneur. Croire que tu nous aimes et obéir en étant des lumières pleines de gratitude, Seigneur. Purifie nos cœurs, purifie nos motivations, Seigneur, pour t'aimer, pour te servir. Aide-nous à nous encourager les uns les autres, Seigneur, à briller pour toi. Dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Amen.